Chers frères et sœurs, bonjour. Nous ouvrons à nouveau aujourd'hui la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, et nous lirons les versets 8 à 16. Premier livre des Rois, chapitre 17, les versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit: « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit: « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Je vous ai parlé la dernière fois de l'école de Dieu pour le prophète Élie, dans ce troisième confinement qui a eu lieu cette fois à Sarepta. Avez-vous remarqué les ressemblances entre les deux confinements, l'un au torrent de Kérit et l'autre chez la veuve? Dans les deux cas, Dieu parle à Élie et il le guide vers un autre lieu de retraite. La première fois, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Donc dans ce chapitre 17 du premier livre des Rois, les versets 2 et 3. Et la seconde fois, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. » Les versets 8 et 9. Chers amis, nous avons constamment besoin de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous en contenter pour une période de notre vie. Elle nous est indispensable chaque jour. La présence de Dieu, son conseil, ses directives, ses encouragements, ses instructions, ses enseignements, sa consolation, ses avertissements aussi, ses corrections, tout cela nous est indispensable. Le psalmiste dit: « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, les versets 10 et 11 et le verset 105. Notre sentier doit être éclairé en permanence par la parole de Dieu, et pas seulement dans les premiers kilomètres de notre marche chrétienne, d'autant plus que les ténèbres spirituelles s'épaississent sur la terre. Jésus nous a prévenus, la nuit vient où personne ne peut travailler, Jean chapitre 9, verset 4. Et Paul écrit aux Romains, « Vous savez en quel temps nous sommes, maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. » Chapitre 13, les versets 11 et 12 de cet épître. Apprenons à dépendre du Seigneur chaque jour de notre vie. Si, avant de remonter au ciel, Jésus a pris soin de nous faire la promesse d'être avec nous tous les jours, et tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est bien parce que nous avons besoin de lui constamment. Certains pièges sont sur notre route. L'habitude, par exemple, qui peut nous amener à penser que Dieu agit toujours de la même manière. L'orgueil aussi, qui conduit à se passer allègrement du Seigneur. Et c'est également dans le psaume 119, cité précédemment, que l'homme de Dieu déclare « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Verset 67. La seconde ressemblance entre les confinements à Kérit et à Sarepta, c'est le fait qu'à chaque fois, Dieu dans sa sagesse, dans son amour, dans sa souveraineté aussi, a tout préparé. La première fois, l'Éternel déclare à Élie, « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Là, à Kérit, verset 4. La seconde fois, « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Verset 9. « J'y ai ordonné à Sarepta. » Bien-aimés frères et sœurs, quel que soit le temps ou les temps, les circonstances, les lieux, nous pourrons toujours compter sur la fidélité de notre Dieu. À ce sujet, Jacques écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Chapitre 1, verset 17. Et Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34. Bien sûr, ces promesses du Seigneur ne sont pas une invitation à la paresse, à une vie désordonnée ou au déséquilibre. Il faut assumer, bien évidemment, nos responsabilités quotidiennes et travailler. Mais, quoi qu'il arrive, nous pouvons nous appuyer sur les soins prévoyants de notre Dieu. La troisième ressemblance, c'est l'action miraculeuse dans le temps. Élie a vécu un miracle prolongé à Kérite. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Verset 6. Et cela pendant un temps assez long. Et à Sarepta, le prophète a vécu également un miracle prolongé. Et pendant longtemps, nous dit la Bible, la veuve eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 15. Je le répète, notre Dieu est fidèle et il est constant. En ce qui concerne le domaine spirituel, Moïse disait à Dieu « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Psaume 90, verset 14. Quant à Jérémie, il aimait à repasser dans son cœur la fidélité du Seigneur. Écoutez-le. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Lamentation de Jérémie, chapitre 3, les versets 21 à 23. Je voudrais encore souligner un fait. Après chaque repas à Kérite, Élie ne disposait de rien d'autre. Il avait mangé le matin, il fallait attendre les corbeaux le soir. Et après avoir mangé le soir, il fallait encore attendre la nouvelle livraison le lendemain matin. À Sarepta, c'est mieux. La nourriture disponible est suffisante pour un repas. Alors il en reste après, mais pas assez pour que la veuve, sa famille et le prophète fassent des réserves. Il y a juste assez de nourriture pour préparer un autre repas. Qu'est-ce que cela signifie? Élie reste à l'école de la dépendance de Dieu. Mes amis, il ne faut jamais sortir de ce chemin-là, quels que soient les temps et les circonstances. Agur priait en ces termes, « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » La bonté de Dieu, mes frères et sœurs, est remarquable. Pour Élie, les choses vont de mieux en mieux. Sa condition de vie s'améliore et c'est presque incroyable. Alors que le peuple d'Israël, infidèle et apostat, connaît une situation de plus en plus difficile, sur le plan climatique, économique, sanitaire et moral, n'oublions pas la sécheresse, la famine, la mort, le découragement. Donc, alors qu'Israël vit cette situation-là, Élie, lui, se repose, si j'ose dire, à l'ombre du Tout-Puissant. À Sarepta, Élie a un toit. Il vit dans une maison. Nous n'avons pas de détails à ce sujet sur l'épisode de Kérit, mais j'imagine que le confort était un ton en dessous. À Kérit, Élie est totalement seul, son isolement est total. À Sarepta, il est en compagnie d'une famille. Dieu est bon. Ne laissez jamais le diable vous persuader que pour vous, les choses vont aller de plus en plus mal. Ne le laissez pas vous brosser un tableau de plus en plus sombre de votre avenir. S'il est vrai que le monde avance vers le jugement divin, nous, nous avançons vers la cité céleste et en attendant, nous pouvons compter sur le Seigneur qui est capable de nous donner des choses excellentes. Lorsque nous acceptons de le suivre sur le chemin de la consécration, il prend merveilleusement soin de nous. Parlons maintenant des leçons à retenir du miracle vécu à Sarepta. Nous découvrons tout d'abord la toute-puissance de Dieu. Au torrent de Kérit, Dieu nous montre qu'il domine sur le monde animal. Les corbeaux sont à son service pour nourrir le prophète. À Sarepta, il domine sur la matière végétale, l'huile et la farine. Notre Dieu est bon et il est aussi le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, dans les jours de sa chair, s'est pleinement révélé comme le Fils de Dieu. Il a agi miraculeusement sur le monde animal, souvenez-vous du poisson, par exemple, dans la bouche duquel se trouvait l'argent pour payer l'impôt. Vous trouverez ce récit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, les versets 24 à 27. Mais souvenez-vous aussi qu'à deux reprises, Jésus a multiplié des pains. Le miracle chez la veuve nous enseigne la souveraineté de Dieu dans l'exercice de ses jugements et de sa grâce. Il y a, dans cette période particulière, un renversement de situation qui doit nous faire réfléchir en profondeur. Israël, peuple élu, auquel étaient promis des bénédictions sans nombre, se place sous le jugement de Dieu à cause de sa désobéissance, de son idolâtrie et de son apostasie. Et la veuve de Sarepta, une étrangère, en raison de sa foi et de son obéissance à la parole de l'Éternel prononcée par Élie, se met au bénéfice de la grâce divine. Quelle leçon et quel avertissement aussi. La troisième leçon de ce miracle, Dieu doit être le premier dans notre vie. Les paroles d'Élie ont de quoi nous surprendre. Lorsqu'il rencontre la veuve, il lui dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répond « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Ah, ce petit mot d'abord, il s'attaque de plein fouet à notre égoïsme. Notre nature charnelle aime à dire « moi d'abord, Dieu et les autres ensuite ». Mais Dieu veut réformer tout cela en nous. Et il nous dit « moi d'abord, toi et les autres ensuite ». Mes chers amis, Dieu doit passer en premier dans notre vie. Et c'est vrai dans tous les domaines, sur le plan spirituel, affectif, matériel, financier et dans notre façon de gérer nos journées. Alors c'est vrai dans les temps faciles, c'est vrai quand tout va mal. C'est vrai dans les temps d'abondance, c'est vrai lorsque il nous reste juste une poignée de farine et un peu d'huile, vous me comprenez. Dieu ne se satisfera jamais de la dernière place dans votre vie, même pas de la seconde place. Une maman avait donné 2 pièces à son petit garçon, l'une pour l'offrande missionnaire et l'autre pour s'acheter des bonbons. En se rendant à l'église, le garçon jouait avec ses 2 pièces dans ses mains. Lorsque l'une des 2 pièces a glissé de ses mains et est tombée dans le caniveau. Et le garçon s'est écrié « Ah mince, la pièce du Seigneur !» Apprenons à faire ce que Dieu dit, sans regarder au peu que nous avons. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été impressionné dans les versets 10 à 13 de ce récit par les expressions « un peu d'eau, un morceau de pain, une poignée de farine, un pot, un peu d'huile, une cruche, 2 morceaux de bois, un petit gâteau. » C'est peu à nos yeux. Et c'est pourquoi nous sommes tentés de garder les choses pour nous. Mais c'est suffisant pour le Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il veut être aimé et servi en premier. Et c'est pour cette raison également que le prophète Élie a dit à cette veuve, « Apporte-moi dans ta main. » Verset 11. Dieu ne nous demandera pas de lui apporter le beaucoup que nous n'avons pas, mais le peu dont nous disposons. Et ce peu, il faut le mettre dans notre main pour lui. Même dans les temps difficiles, Dieu attend cette consécration-là. D'ailleurs, si nous réfléchissons encore un peu, ce texte est plein de l'esprit de sacrifice. Qu'est-ce que la farine? Du blé écrasé. Qu'est-ce que l'huile? Le résultat d'olives qui ont été broyées. Gethsémané est un nom qui signifie pressoir à huile. Là, notre Seigneur a été broyé, la volonté de son Père est passée en premier et pour marcher dans quel chemin? Jusqu'à la croix. Et à Golgotha, le grain de blé est tombé en terre, pour reprendre les paroles mêmes de Jésus. Le grain de blé a été écrasé sous le jugement de nos péchés. Et mon Dieu, aimons Jésus, et donnons-nous tout entier à lui, comme lui-même s'est donné pour nous. Et un dernier mot. Dans ce 3e confinement, et bénéficiant du miracle de Dieu, Élie a été en bénédiction à d'autres. Et c'est d'ailleurs ce que va souligner Jésus des siècles plus tard. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » J'aime la fin de ce récit. Au verset 15, « Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. » Car en fait, à Kérit, Élie est envoyé pour y être nourri. Mais à Sarepta, il est envoyé pour non seulement y être nourri lui-même, mais aussi pour qu'une veuve et sa famille connaissent l'amour, la grâce et la puissance de Dieu. Avant l'arrivée d'Élie, cette veuve attendait la mort de son fils et la sienne. Maintenant, elle vit. Avant, elle était seule avec son fils. Maintenant, sa famille est mentionnée. En conclusion, Élie est envoyé dans ce territoire pour y apporter, au sein d'une famille pauvre et désespérée, un message de grâce et de vie. Mes frères et sœurs, il en est ainsi pour nous. Les bénédictions de Dieu au sein de nos épreuves et dans un contexte difficile doivent nourrir les autres. Ne l'oublions jamais. Amen.